Le Mag de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour le Mag de l'Immo, deuxième heure. Pour ceux qui ont raté la première heure, pas de panique puisque tout est en podcast et disponible sur le site de Radio Immo. Pour cette deuxième heure, on est ravis d'accueillir Hugues Galembrun, le président du groupe Septéo, qui nous a rejoint il y a quelques minutes. Il va tout nous dire sur son groupe qui n'en finit pas d'acquérir des pépites de la French Tech, que ce soit PropTech, LegalTech ou même IT. On va voir ça dans quelques instants pour découvrir le portrait de notre invité, bien sûr. Je suis en compagnie de Fabienne Lissa. Comment ça va, Fabienne?
Très bien. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Et c'est la première fois pour Galembrun dans le Mag de l'Immo. Donc, on est très contents parce qu'on va avoir le temps de discuter, de le découvrir.
Voilà, Hugues Galembrun, c'est vrai, on essaye de mêler durant cette heure qu'on va passer ensemble, du très sérieux, du business. Vous allez tout nous raconter sur le groupe que vous avez bâti, mais également qui est derrière la fonction, vos passions, vos intérêts, qu'est-ce qui vous anime finalement, et puis également vos choix musicaux. On vient d'écouter Christophe, Les Mots Bleus, juste avant 8h. C'est quelque chose que vous mettez souvent dans les écouteurs, dans la voiture?
Oui. C'est quelqu'un qui a une voix qui est son instrument. Enfin, au-delà du fait que c'est un musicien, extraordinaire, c'est quelqu'un qui a une voix qui m'émeut beaucoup parce que finalement, il a un instrument. Son instrument, c'est d'abord sa voix. Je suis très amateur. C'est pas toujours très gay. Il faut avoir la pêche pour écouter Christophe, mais c'est un formidable artiste.
Bon, on va voir le choix du Galembrun, très éclectique ce matin. Donc, il y aura des surprises tout à l'heure.
Fabienne. Mais je vois un fil conducteur quand j'ai eu Galembrun en face de moi et les beaux yeux bleus. Les mots bleus. Moi, je comprends le choix de cette. Non, je ne drague pas, mais je parle encore une fois pour ceux qui nous écoutent à la radio. Et maintenant, effectivement, sans aller dans des termes trop compliqués, moi, ça m'a intrigué parce qu'on m'a dit, oh oui, c'est un pro de la legal tech, Alors, qu'est-ce que c'est la legal tech? On fait tous du droit un jour ou l'autre. On achète un appartement, on se retrouve face à un notaire. Maintenant, qu'est-ce que c'est la tech là-dedans? Vous venez de là. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Et en plus, c'est un secteur en pleine expansion. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui. Alors, la legal tech, c'est la technologie pour les professionnels du droit. C'est aussi simple que ça. Donc, ça concerne tous les outils digitaux qui vont permettre aux professionnels du droit de mieux travailler et de créer du lien avec leurs clients.
Aujourd'hui, ils sont au bois parce que, excusez-moi, les avocats, ça parle beaucoup, heureusement, ils défendent des intérêts, on les aime bien, des causes parfois perdues, mais excusez-moi, de penser à l'high-tech, le digital pour les avocats, j'ai pas beaucoup vu ça. Ils sont en avance là-dessus en France?
Alors, je vais pas dire qu'ils sont en avance, mais ils sont présents. C'est une profession très hétérogène, donc ils sont équipés de façon très hétérogène. Mais ça concerne tous les avocats. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne aujourd'hui.
Comme chez Doctolib.
Exactement, comme chez Doctolib, sauf que vous tapez Mitlo, mais vous pouvez rencontrer un avocat en ligne, vous pouvez payer en ligne.
Est-ce que vous gagnez en ligne? Voilà, on gagne le procès en ligne.
Alors là, pas encore.
C'est pas encore garanti.
Ça viendra. Il y a des liens quand même très forts entre les tribunaux et les cabinets d'avocats. Il y a quand même de la digitalisation entre les deux qui s'est opérée. C'est cet environnement digital autour des professions du droit, la legal tech.
Et je me suis laissé dire que c'est un secteur extrêmement attractif pour les investisseurs, notamment pour les investisseurs étrangers, les talents étrangers. D'ailleurs, c'est comme ça que vous êtes en rapport avec un fonds britannique, c'est ça? Vous pouvez nous raconter cette petite histoire?
L'histoire de l'entrée du fonds chez nous. Oui, alors. On a créé cette entreprise en 2013 avec mes deux associés et on était un petit peu à un palier. Et c'est toujours pareil dans les histoires d'entreprise, chaque histoire entrepreneuriale, il y a des paliers. Et la question qui se pose, c'est comment on franchit ce palier supplémentaire. Alors il y a toujours plusieurs possibilités, mais entre la possibilité d'une introduction en bourse qui finalement est très contraignante et apporte pas grand-chose pour les dirigeants historiques. La possibilité de s'associer à un industriel, souvent on y perd un peu son âme. La troisième solution, c'était celle qui est privilégiée souvent par beaucoup d'anglo-saxons, notamment les Américains. C'est comme ça que les Américains atteignent des tailles critiques. C'est ouvrir un peu son capital. Ce qu'on a tendance à oublier un peu en France, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tout seul au capital pour croître. Et ouvrir son capital avec des types de fonds qui sont spécialisés dans le logiciel, notamment AJ Capital est un fonds qui est spécialisé dans le logiciel, donc il connaît parfaitement cette industrie. Et ça nous permet de franchir des caps. Il nous redonne la pêche qu'on peut avoir lorsqu'on a créé l'entreprise et on retrouve ce goût de l'entrepreneuriat parce que d'abord il faut être aussi très très cash, hein. Les entrepreneurs lorsqu'ils ont créé une entreprise qui s'est bien développée, ils ont besoin à un moment donné de rendre liquide l'actif qu'ils ont développé. Et de temps en temps, ça les transforme. On a l'impression d'avoir en face de soi non plus un entrepreneur, mais un gestionnaire de patrimoine. Et quand on se transforme en gestionnaire de patrimoine, il faut vite soit quitter l'entreprise, soit transformer l'entreprise. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En faisant un peu de cachade, finalement, vous redevenez entrepreneur. Puisque vous reprenez le plaisir, le goût du risque, et quand même ce qui fait la vie de l'entrepreneur, c'est le goût du risque, ne pas avoir peur d'investir. Et c'est ce qu'on a retrouvé avec cette ouverture.
Et nous, les journalistes, on adore les sociétés comme vous, parce que si on vous revoyait, par exemple, dans un mois, cette société, c'est jamais la même. C'est-à-dire, fin octobre 2021, Neti rejoint la galaxie Septéo. Il y a quelques mois, c'est la société Ingenéo qui est rachetée. Et puis, c'est à chaque fois, en deux semaines, vous retournez, il a acheté une société en plus. Là, entre hier et aujourd'hui, vous n'en avez pas acheté une,
également ? Non,
mais les dossiers sont en cours, on a l'impression.
J'ai pas voulu vous faire ça, je savais que ça allait être très compliqué
pour
vous.
Ah bah si, on voulait du scoop. Non, ce qui était étonnant, c'est vrai qu'on parlait du Rennes tout à l'heure, donc ce fameux salon de la PropTech, et Neti, en fait, vous veniez de, je crois, de signer, l'encre était encore fraîche. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont toujours un très beau stand à l'entrée, ils participent maintenant de la Galaxy Septéo, donc il y aura peut-être un encore plus gros stand l'an prochain. On verra ça. Juste une question justement sur votre parcours avant que les fonds arrivent, comment on décide de se transformer puisque vous étiez patron, président, directeur général de la CECIB. Alors là, dans les logiciels, c'est là finalement où ça a démarré, où il y a eu cette ambition qui s'est structurée, peut-être parce que l'entreprise marchait bien aussi, il faut le dire, hein, vous avez pris ce virage à un bon moment.
Oui, alors en fait, ce qui a fait Septéo, c'est déjà une histoire d'entrepreneur. Puisqu'on s'est associés, on était trois. Deux de mes associés venaient du monde plutôt du notariat. Moi, je venais plutôt du monde de l'avocat. Et on s'est associés en se disant qu'on était plus forts à trois. Et donc déjà, ça nous a... l'avantage de s'associer, de construire à trois, alors ça peut avoir des inconvénients, hein, mais à partir du moment où on a une règle de conduite qui est celle de la transparence, ça nous permet d'être plus... On est toujours plus intelligent à plusieurs. Hein, il ne faut pas imaginer qu'on sait tout. Et ça nous a permis de nous développer plus vite parce que chacun était plutôt spécialiste. Il y en a un qui était plutôt technophile, un autre plutôt stratège et
vous
financier.
Vous êtes plutôt sur quoi, justement? Même si en tant que président, vous avez la vue globale sur tout, bien sûr.
Moi, ce que je sais faire.
Oui, par rapport aux trois, si jamais c'est réparti, quelle est plutôt votre spécialité?
Bon, moi, j'étais plutôt sur la partie commerce, marketing, management, RH, on va dire. Voilà, mais bon, après, il ne faut pas qu'il y ait des frontières non plus trop franches quand on est associé, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'impression qu'il y a un tunnel ou une zone d'ombre entre les associés. Il faut que chacun puisse rentrer dans la zone de l'autre, mais il faut que ça se fasse surtout en transparence.
Voilà. Et puis, vous avez travaillé dans ce groupe à la prononciation toujours assez challenging, ou Wolters-Kluwers à la hollandaise. Et là, il y a pas mal de legal tech, je crois.
Il y a longtemps. Oui, c'est un groupe de la legal tech. Hein. C'est un groupe, effectivement, qui faisait essentiellement de la documentation juridique et qui s'était lancé dans le logiciel. Donc, je l'ai rejoint au moment où ils avaient pris ce virage du logiciel au travers d'une société qu'on avait créée qui a été vendue.
Et c'est là que vous vous êtes dit, eh ben, on va créer une galaxie, la Voie lactée, parce que c'est extraordinaire, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, c'est plus d'une vingtaine de sociétés qu'en très peu de temps, hein, on l'a dit, le groupe date seulement de 2013, vous avez intégré, vous développez, n'est-ce pas?
Oui. Alors, on ne fait pas que de la croissance externe, il ne faut pas imaginer que la croissance de Septéo est essentiellement de la croissance externe. Le plus gros de la croissance, contrairement à ce qu'on croit, c'est de la croissance interne. Donc, c'est nos entreprises qui se développent. Et ça, c'est très important parce que on a fait le choix avec Septéo de faire une intégration. Septéo, c'est un groupe. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a plusieurs sociétés, mais ces sociétés s'intègrent. Et on a la volonté de créer de la valeur en intégrant. Parce que aucun intérêt de se regrouper si on ne crée pas des synergies entre nous. La force de Septéo, c'est d'arriver à faire travailler des femmes et des hommes ensemble dans des domaines qui sont des domaines voisins.
Alors, on va en prendre une. Modelo, hein, j'ai le choix dans les 20 sociétés. Modelo, c'est Étienne Petit qui, justement, faisait partie de cette société et donc qui a rejoint le groupe. Comme par hasard, c'est dans le pôle immobilier. Hein, vous vous demanderez pourquoi j'ai choisi celle-là. Et je vous propose d'écouter Étienne Petit. Étienne Petit, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Modelo. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous parle de Monsieur Galambin? Qu'est-ce qu'il caractérise?
Ah, je dirais en fait sa bienveillance. C'est quelqu'un d'extrêmement agréable. Il est précis, direct, toujours à l'écoute. Donc c'est très agréable de travailler avec Hugues.
Alors comment ça s'est noué, la coopération avec lui? Ça fait pas si longtemps que vous connaissez?
Non, puisque Modelo, en fait, la société que j'ai cofondée, en fait, a été rachetée par le groupe Septéo en mars 2021, donc c'est un peu moins d'un an. Bon, Modelo, c'est une société à l'origine qui fait la rédaction d'actes assistés. Et on s'était rapproché de Septéo simplement pour poser une passerelle avec les notaires, puisque Modelo, c'est aujourd'hui plus de 15 000 agences immobilières qui nous utilisent pour rédiger leurs actes. Et Septéo, c'est notamment Genapi, donc le logiciel qui est utilisé par 75% des notaires. Donc l'idée, c'est de faire un lien entre les deux pour faciliter la vie de nos clients respectifs.
Alors Septéo a fait de nombreuses acquisitions. On pourrait penser que c'est juste des lignes comptables, mais vous avez l'air d'avoir noué une vraie relation avec le président de Septéo.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, à l'origine, ce qui nous animait, c'était un projet industriel. C'était déjà pour Modelo changer d'échelle, donc voire plus grand, en amont et en aval. En amont, c'était en fait essayer de trouver un logiciel métier dédié, donc ce que le groupe Septéo a fait avec le rachat de métier, avec Kinaxia, avec Cityscan, etc. Et puis en aval, c'était cette relation avec les notaires, mais aussi d'autres professions qui nous intéressent, comme les avocats ou les huissiers.
Alors, est-ce que l'échange, c'est une fois de temps en temps? Comment ça se passe, l'accès à un président aussi occupé que lui?
Ben, très simplement, par SMS, souvent pour être sûr de le contacter rapidement. Et Hugues est toujours extrêmement réactif pour répondre dès qu'il y a une question, dès qu'il y a une rencontre, dès qu'il y a un besoin.
Donc, accessible, bienveillant, impliqué, c'est ça pour résumer, Hugues Galambin?
Exactement, exactement. En fait, on a l'impression d'appartenir à une grande famille, la famille Septéo.
Alors, c'est formidable parce que souvent, des grands PDG, ils ont un chef de cabinet, des cortèges d'assistants. Et quand on écoute et quand on vous voit, vous gardez ce style. Est-ce que c'est le style de Montpellier, du Sud, qui fait que vous êtes un grand patron, mais on a le sentiment qu'on peut aller boire un verre avec vous dans la minute?
Non, mais je crois que c'est une image, hein, d'imaginer que les grands patrons... Enfin, je ne connais pas tous les grands patrons, évidemment. Mais je crois que c'est une image un peu d'Épinal que de penser que les grands patrons, forcément, sont inaccessibles. On est dans la réalité en permanence. On côtoie nos collaborateurs tous les jours. Et un patron qui n'est pas accessible... Enfin, un patron, sa grande qualité, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble et soient bien ensemble. À partir du moment où on est bien ensemble et où on a un objectif commun, en général, l'entreprise va toujours mieux que si les gens n'ont pas envie de travailler ensemble. Enfin, ouais. Si on n'aime pas les autres, il faut pas choisir ce métier. Il y a plein d'autres métiers qui nous permettent d'être tout seul dans son coin, derrière son écran. Moi, ce qui m'anime, c'est de rencontrer les gens, c'est de partager avec les gens, et c'est de les faire travailler ensemble et faire en sorte que lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils sont contents de se rencontrer. Voilà. C'est oui. Donc.
On parle souvent quand on est comme ça dans une logique d'acquisition. Vous êtes à l'écoute, bien évidemment, du marché. Vous identifiez des cibles, mais une fois qu'il faut se lancer et quand même mettre des sous sur la table, évidemment, on se dit on va travailler avec des gens pendant des années. Il faut qu'il y ait un fit, c'est-à-dire que ça match. Il y a une histoire d'hommes aussi, parfois de femmes, évidemment. Comment ça se passe que vous êtes très sensible à ça, c'est quelque chose que vous privilégiez? Là, on sent le patron de Modelo, ça a l'air de bien se passer.
Alors, c'est d'abord une histoire. Enfin, les acquisitions, c'est d'abord une histoire d'hommes. Hein, enfin, d'hommes avec un grand H, femme et homme. Hein, homme, grand H. Hein. On ne peut pas acquérir une entreprise si on sent qu'avec son dirigeant, ça ne va pas le faire. Hein. Mmh. Donc, ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, mais ce n'est pas une confidence, tout le monde le sait. Mais on achète une entreprise, chaque fois qu'on achète une entreprise, on achète d'abord la ressource humaine, c'est-à-dire la capacité qu'on a à pouvoir travailler avec notamment le dirigeant.
Équipe.
Voilà. Les talents,
c'est
quoi.
Exactement. Les talents. C'est des talents et c'est la capacité de travailler avec des femmes et des hommes. C'est d'abord ça, une acquisition.
Mais à contrario, Galambrin, la question est un petit peu plus pointue. Est-ce que c'est arrivé où là, vous dites ça, ça doit être dans le groupe et ça ne se fait pas parce que vous sentez que ça ne va pas, ça ne matche pas.
Oui, bien sûr. Oui,
ça arrive aussi.
Oui, bien sûr. C'est arrivé fréquemment. Enfin, pas fréquemment, mais c'est arrivé plusieurs fois. Ouais.
D'accord. Et là, à ce moment-là, on se dit c'est la cible idéale, mais
on n'y arrivera pas. Ouais. Parce qu'acheter, ce n'est pas compliqué, entre guillemets. Bon, enfin, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir la ressource financière, évidemment. Mais indépendamment de la ressource, n'importe qui peut acheter n'importe quoi, hein, c'est pas la question. La question, c'est comment on intègre et comment, ensemble, on arrive à à créer plus de valeur et à créer de nouveaux produits, de nouvelles offres et à travailler ensemble. Et puis, quand même, à prendre un peu de plaisir ensemble, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même du plaisir. Si on fait ce métier, c'est d'abord pour ça. Hein. C'est d'abord pour prendre du plaisir avec les autres et essayer de c'est un peu une compétition d'équipe. Si vous avez joué au rugby, au foot, ou enfin, si vous avez fait un sport collectif, c'est exactement la même adrénaline lorsqu'on crée une équipe entreprise ou une équipe sportive.
C'est intéressant parce que Hugues Galambrin nous a dit, on a parlé un petit peu sport, nous aussi, nous avait dit, vous étiez judoka. Le judoka, il est là pour battre tout le monde et être le champion.
Oui, bien sûr. Ouais,
pourtant, là, vous parlez de sport d'équipe.
Oui, parce que le judoka est un sport individuel, c'est exact, mais ça peut être un sport d'équipe. Je vous rappelez que les Français sont champions olympiques par équipe.
Formidable. Ouais.
Voilà, il y a trois filles, trois hommes, et on a battu les Japonais à Tokyo.
Exactement, c'est extraordinaire.
Alors que notre champion avait échoué en individuel.
Alors que Teddy Riner avait échoué en finale, enfin il avait quand même, enfin en demi-finale, il a quand même été médaillé, mais ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose lorsqu'on est en équipe, mais pas que Teddy Riner, parce que Teddy Riner a gagné un final par équipe, mais d'autres dans l'équipe ont gagné un final contre les Japonais alors qu'ils étaient intrinsèquement moins bons.
Bien sûr.
Mais l'équipe les a dépassés. Et c'est ça qui est fort dans une entreprise, c'est que l'équipe doit nous dépasser, chacun de nous, parce que la performance globale de l'équipe doit être plus forte que la performance individuelle.
Et c'est intéressant parce qu'on parle du groupe, comment il se développe sur le marché français, parcours fulgurant, mais la concurrence, elle est internationale. Et là, c'est là où effectivement, je comprends que vous ayez besoin d'un actionnaire ou d'un investisseur qui vous accompagne, parce que voilà, vous pouvez nous donner des ordres de grandeur, vous n'êtes pas tout seul sur ce marché de la Legal Tech. Hein.
Non, ni dans la Legal Tech, ni dans la Prop Tech d'ailleurs, mais en fait dans la Legal Tech particulièrement. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le marché français attire tous les investisseurs. Alors, je vais caricaturer un petit peu, mais vous savez, les Américains, il y a beaucoup d'argent actuellement aux États-Unis. Lorsqu'ils veulent aller en Europe, ils ont un terrain de jeu, c'est le UK. Donc, ils arrivent au UK, ils investissent beaucoup. Et puis, une fois qu'ils ont pris un petit peu le marché UK, ils regardent l'Europe. Et l'Europe... L'Europe, le marché français reste quand même
attractif.
Un gros marché. Un marché qui, culturellement, est encore, pour eux, pas trop éloigné, on va dire. Même si ça reste un peu, pour eux, c'est encore la
tête. Montpellier, c'est le bout de la planète pour eux. Hein.
Donc, ils préfèrent d'abord aller sur les pays nordiques. Mais le marché français, forcément, est un marché attractif pour eux. Et on combat face à des gros Américains, notamment.
Voilà, donc quelle force de frappe disposez-vous pour de la croissance externe aujourd'hui ?
Quelle force de frappe ? On a les ressources qui sont liées à notre taille critique.
C'est combien ça?
Bon, je peux pas vous dire, ça dépend. Mais on a, oui, on a des dizaines de millions, forcément. On a plusieurs, plusieurs des dizaines de millions. Et au fur et à mesure qu'on grossit, on a plus. C'est toujours pareil. C'est corrélé à la taille critique de la.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est vrai que la Silicon Valley ajoute 1 voire 2 zéros, en tout cas, sur leur territoire. S'ils viennent en France et un jour ils disent, bah tiens, le Septéo là qui a bien grossi, etc., ça nous intéresse, un fonds pourrait mettre une offre sur la table, c'est quelque chose où là vous voyez continuer l'aventure et essayer d'en faire un groupe déjà français puis européen.
Oui, c'est pour ça qu'il faut être à plusieurs, c'est pour ça qu'il faut ouvrir le capital à d'autres, d'autres qui sont avec nous, de façon à ce qu'on crée ensemble une communauté d'intérêts qui nous permette de résister à des prédateurs. On est très ancré sur le territoire national. Nos activités sont très nationales. Alors on élargit un peu à l'Europe, hein, faut pas. Mais on a vocation à rester un acteur quand même européen, national et européen.
Là aujourd'hui, à peu près 2200 collaborateurs. Quels sont vos objectifs? Vous voulez combien vous serez à 5000 collaborateurs bientôt? À quelle échéance?
Oui. Je pense que si la croissance telle qu'on l'a, on fait à peu près 25% de croissance annuelle, donc je vous laisse faire les calculs, mais on sera à 5000, j'espère, dans 4 ans, on sera à cet ordre-là.
Vous nous parlez tout à l'heure de chaîne de valeur, on est parti de la Legal Tech et on a intégré des briques comme ça de la PropTech. Est-ce qu'aujourd'hui l'écosystème est complet ou est-ce qu'il y a d'autres, évidemment d'autres cibles, ça il y en a pour grossir, mais est-ce que sur la chaîne de valeur elle est complète ou il y a d'autres briques qui vous manquent?
Non, il y a toujours des briques qui manquent. J'ai entendu tout à l'heure que vous ouvriez vos antennes à des startups. Les startups souvent elles émergent d'un besoin qui n'est pas rempli par d'autres acteurs. Donc on regarde évidemment toutes les bonnes idées, tout ce qui répond à un besoin précis et qui permet à nos clients de mieux travailler ou travailler plus facilement. Nous, notre métier, c'est de rendre la vie de nos clients plus facile. Donc, un agent immobilier, un gestionnaire de biens, un notaire, doit avec nos outils pouvoir travailler plus vite et plus facilement, avoir moins de contraintes, moins de choses dans la tête, un peu plus dans l'ordinateur, ça lui permet de se dégager l'esprit pour être avec ses clients. Et par ailleurs, ça doit permettre aussi l'accès à ses propres clients plus rapidement, avec des portails, avec des accès pour pousser des mandats, pour essayer d'accéder à de nouveaux mandats. Il faut lui donner un certain nombre d'outils. Enfin, notre métier, c'est ça. Donc, il y a forcément des outils au milieu qui compléteront les offres.
Il y a un fil conducteur quand même, c'est cette digitalisation. Hein, les nouvelles acquisitions, clairement, sont dans le digital. J'ai une question sur l'inspiration. Quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que justement, ce sont des salons professionnels? On en a parlé. Est-ce que vous allez voir justement de l'autre côté de l'Atlantique ce qui se passe? Comment on choisit? Comment on imagine? Comment on développe une vision sur ces métiers?
C'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est d'abord et surtout le besoin du client.
D'accord.
Si on ne répond pas à un besoin client, il y a peu de chances que vos produits soient utilisés. Hein.
C'est vrai que beaucoup d'acteurs de l'immobilier nous parlent de plus en plus de digital à notre antenne. Si on fait un petit détour par l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle prend une place croissante? Vous pouvez nous en parler un petit peu dans vos sociétés?
Oui, alors l'intelligence artificielle, oui, forcément, parce que c'est des choses qu'on étudie. On a aujourd'hui un pôle d'intelligence artificielle chez Septéo, qu'on a développé sur, pour l'instant, deux domaines précis qui est la capacité d'interpréter des contrats. Ça, c'est plutôt pour la Legal Tech, mais ça peut servir également avec Modelo dans le monde de l'immobilier. C'est comment, à partir d'un contrat, on est capable de le décortiquer par l'intelligence artificielle, extraire les entités nommées, et ces entités nommées, les rapatrier dans une base de données. Même chose sur la partie facturation, par exemple, tout ce qui est chiffres, comment on peut d'un document extraire des données comptables et financières pour pouvoir les rapatrier dans sa base de données. Donc voilà ce qu'on fait dans l'intelligence artificielle. Alors Pour l'instant, en matière immobilière, il n'y a pas beaucoup de... On ne l'a pas tellement intégré dans nos applicatifs pour les professionnels de l'immobilier. On l'utilise davantage pour les professionnels du droit. Mais forcément, ça viendra parce que les usages vont faire qu'on va rencontrer le cas d'usage précis dans lequel on va pouvoir utiliser l'IA.
On parlait recrutement, quelques idées quand même de profil, parce que toutes ces sociétés qui se développent, vous disiez, on fait également de la croissance interne, c'est le moment de passer un petit appel. Quel type de profil recherchez-vous dans vos sociétés ?
Essentiellement des ingénieurs, et c'est essentiellement... On manque de 10 000 ingénieurs en France, je crois, à ce stade. Donc, on a de vrais besoins en ingénieurs. Cette année, on a ouvert 500 postes hors croissance externe.
Alors, spécialiste data, parce que bon, c'est large, hein, l'ingénieur, ça veut tout dire.
Alors, c'est du développement, c'est du DevOps, c'est de l'intelligence artificielle, effectivement, c'est des data analystes, c'est des architectes, c'est tous ces domaines-là. On recrute dans tous ces domaines-là.
Ça doit attirer, parce que c'est vrai que tout le monde parle de vous, la licorne, le président lui-même met en avant quand il y a une licorne, et puis dans ce domaine de la legal tech, il n'y en a pas tant que ça. Ça vous fait plaisir, cet engouement, ou ça vous fait sourire, parce que pour vous, c'est le développement normal, votre vision de croître à la fois par des acquisitions et par de l'interne, mais ce côté de licorne, ce statut...
Ouais, alors... Licorne, moi, j'attache pas beaucoup d'importance, d'autant plus que on met souvent dans la catégorie. Alors, on nous met des fois dans les licornes, des fois on nous les met pas, parce que dans les licornes, on met souvent les startups. Les startups, sont des entreprises qui, pardonnez-moi l'expression, il en faut, hein, il en faut vraiment, parce que c'est l'économie de demain. Donc ça, c'est super qu'on puisse avoir des licornes startups en France. Mais c'est des entreprises qui crament du cash, si vous me permettez l'expression. Et Septéo n'est pas du tout une entreprise de ce type-là, puisque Septéo est une entreprise plutôt de type ETI, 2200 personnes, on fait du chiffre d'affaires et on contribue très largement à notre écosystème social. Septéo contribue beaucoup à la richesse de la nation. C'est pas malheureusement. Alors les startups contribueront d'eux-mêmes.
Le stade d'après, scale up, c'est-à-dire.
Exactement. On est dans le stade d'après et on est très contributeur de la richesse de la France. Donc c'est notre. D'ailleurs, on considère qu'on a un rôle sociétal fort et donc est-ce que pour répondre à votre question, est-ce que ça me fait plaisir? Si je vous disais que ça me fait pas plaisir, je vous mentirais. Bien sûr que ça me fait plaisir. Je suis très heureux de ce succès qui est tout à fait relatif. Il faut faire très attention. Il faut rester modeste. Et quand on est dans la vie de l'entreprise, vous savez, le succès est toujours relatif. Puis de toute façon, le succès. Ça dépend de ce qu'on regarde, vous savez, quand on se compare, on voit toujours plus fort et on voit toujours moins fort. Donc,
C'est ce que je voulais qu'on touche. Vous êtes modeste et c'est ce que j'ai senti en interviewant Jean-Michel Camison, président du directoire de Doux chez ADB. Lui aussi, il avait une société et lui aussi, il a rejoint ce groupe Septéo. Jean-Michel Camison, l'écoute. Jean-Michel Camison, bonjour. Vous êtes le président de Doux chez ADB. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez vendu votre société au groupe Septéo. Vous pouvez nous parler de ce mouvement ?
Oui, bien sûr. J'ai vendu la gestion intégrale, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans les services immobiliers, à Septéo. Et j'ai considéré que cette vente était une passation de témoin. En tant qu'entrepreneur, je n'avais plus suffisamment de temps, suffisamment de compétences et suffisamment de moyens pour assurer, on va dire, l'objectif de la gestion intégrale, qui était d'aller encore plus loin dans la délivrance des services informatiques.
Quel est votre regard sur ce groupe Septéo qui fait de nombreuses acquisitions? C'est plutôt positif que votre société fasse partie d'un grand groupe comme ça maintenant?
Alors c'est plus ma société, mais je suis très content qu'elle fasse maintenant partie d'un grand groupe comme Septéo. Oui, tout à fait. Septéo a cet avantage majeur, c'est d'avoir internalisé un grand nombre de développeurs informatiques de sociétés d'édition qui tournent autour du monde de la legal tech et de la prop tech. Et ça, c'est très important parce que on va dire le côté légal dans l'activité de gestion immobilière ou de services immobiliers est omniprésente. Donc le fait d'avoir une multitude de services potentiellement utile pour l'administration de biens ou le syndic de copropriété, au sein même d'un groupe aussi gros que Septéo, c'est un vrai avantage, oui.
Est-ce que ces secteurs, pour vous, sont porteurs encore pendant de longues années? C'est un groupe qui recrute. Est-ce que ce management de Galambrin, il est porté vers l'humain? Vous avez senti ça?
Oui. Alors le métier le veut, si vous voulez. Hein, le métier du développement informatique, hein, de l'édition de logiciels, c'est un métier qui est énormément porté sur l'humain parce que la matière première, ben, c'est les développeurs, et les développeurs, c'est avant tout des garçons et des filles qui sont passionnés. Donc oui, je pense que c'est un groupe d'avenir et il s'est positionné dans des métiers qui sont des métiers d'avenir. Hein, la legal tech, c'est tout ce qui fait appel aux notaires, aux huissiers, aux avocats, l'ingénierie des services immobiliers également. Donc oui, je pense que c'est vraiment un pool qui a misé sur un secteur qui se développe très fort et qui est un secteur d'avenir. Oui.
Merci Jean-Michel Camizon pour ce témoignage. C'est quand même une grosse responsabilité, ces patrons, ces fondateurs, ils vous passent leur bébé. Hein. Ils parlaient de ce passage de témoin. On parle de finance, on parle d'hommes, mais donner de la cohérence et garder son âme, vous utilisez ce mot-là tout à l'heure, c'est pas facile. Comment on additionne toutes ces âmes?
C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est le plus dur. C'est le plus dur, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Ce que je vous disais, c'est réunir les hommes, encore une fois, femmes et hommes, hein, hommes la catégorie hommes grand H. Hein. Mais c'est juste génial de pouvoir faire en sorte qu'on soit capable de créer une communauté de travail et qu'ensemble, on ait envie de se dépasser, d'avoir un projet commun, de donner du sens à son projet. C'est bien sûr que c'est compliqué, mais c'est passionnant.
C'est peut-être un moment de faire une pause musicale. Alors tout à l'heure, on a vu le fil conducteur. Il y avait Julien Doré qui vient du sud de Cévenoles. On sent cette ambiance de Montpellier. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est vendredi ou qu'on donne des idées de week-end aux Parisiens qui ont envie d'aller dans le sud. En tout cas, maintenant, c'est Daft Punk, Instant Crush. Est-ce qu'ils ont un lien avec Montpellier le sud? Vous me le direz. En tout cas, on les écoute.
I didn't wanna be the one to forget.
5 sur l'antenne de Radio Imo. On vient d'écouter Instant Crush.
Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Le portrait du Galembrun ce matin, notre invité exceptionnel dans le Mac de Limo avec cette magnifique réussite Septéo, hein, work in progress d'ailleurs, hein, puisque le groupe n'en finit pas évidemment de changer, de muter et de s'agrandir avec des start-up, des scale-up. Voilà, on fait le portrait du Galembrun. Avec vous, Fabienne.
Oui, et c'est vrai que c'est l'occasion, cette émission, de découvrir des dirigeants, mais c'est vrai qu'on essaie de gratter un peu. Est-ce que vous n'êtes qu'un manager derrière un tableau Excel? Le week-end approche. Est-ce que, sans être indiscrète, ça vous arrive d'aller dans le domaine de l'art, de faire des incursions dans des domaines autres que ceux qui vous occupent du matin au soir?
De l'art, du sport...
Dernière exposition que vous avez vue, par exemple, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est?
Je suis passé. Je confiais là, tout à l'heure sur ce plateau à off que hier j'avais une heure devant moi et je suis passé au centre Beaubourg et je suis allé voir l'expo permanente. Je suis tellement peu artistique moi-même que je suis très ému par l'art. J'adore l'art parce que j'y connais rien. Et que ça m'émeut toujours. Donc, revoir un peu ce qui était le fauvisme, voir le début du cubisme, cette évolution. Enfin, Beaubourg a une expo permanente qui est juste exceptionnelle. Je crois que il faut y aller. Enfin, je suis pas là pour faire la promo de.
Vous donnez des idées pour le week-end. Mais, c'est bien.
Mais c'est toujours très émouvant. Voilà, c'est toujours très émouvant l'art pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas du tout artiste. Qui suis extrêmement rationnel, parfois trop rigoureux.
Alors, il y a de la rigueur dans l'art aussi, mais est-ce qu'il y a un ou deux artistes, je vous prends un petit peu au dépourvu, hein, mais que vous pouvez citer, parce que c'est intéressant, vous citez des mouvements, le fauvisme, mais juste voilà, pour qu'on ait envie de vous connaître, qu'est-ce qui peut susciter cette émotion chez vous, par exemple?
Je vais pas rentrer dans le détail parce que justement hier c'était un peu en détail. Mais prenez quelqu'un comme Picasso, c'est un artiste qui en fait est une évolution de l'art en lui-même. C'était juste extraordinaire de suivre ce que Picasso a fait tout le long de sa carrière, parce que finalement il a épousé l'évolution du XXe siècle, ouais. Et lui-même est une voie artistique divers, variée, en fonction de ses humeurs, en fonction de sa vie amoureuse. Son art s'est transformé et c'est juste assez. Ça m'émeut de voir comment un artiste, en fonction de sa vie, est capable de rendre, de produire des œuvres très différentes qui nous touchent différemment. Voilà, bon, après, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là où je suis pas. Il y a des spécialistes.
Mais ça nous intéresse. Tout à l'heure, par exemple, vous parliez du sport, hein, pour mieux connaître une personnalité, parce que d'une société à l'autre, on se rend compte que chacun a son management et chaque personne est différente, les dirigeants aussi. Et dans le sport, en ce moment, il y a les JO. Je suis un petit peu déçue. J'ai entendu que Tessa, qui j'avais misé, est un petit peu raté. C'est JO. Le ski, c'est un domaine, une discipline dans laquelle vous faites plaisir aussi.
J'adore le ski. J'adore le ski, le snow. Enfin, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait depuis tout petit. Moi, je suis issu des Cévennes. Vous savez, j'ai grandi. Ma petite enfance, c'est les Cévennes. Et il y a deux montagnes dans les Cévennes. Il y a le Mont Aigoual d'un côté et le Mont Lozère de l'autre. Alors, évidemment, maintenant, il y a un peu moins de neige, hein, avec le changement climatique. Mais quand j'étais petit, figurez-vous qu'il y avait de la neige tous les hivers. Et il y avait même des ski clubs. Et j'ai jamais appris à skier, pour vous dire la vérité. Je me rappelle même plus avoir appris à skier, puisque j'ai toujours skié. Et donc, j'adore le ski. J'y vais régulièrement. On a la chance, puisque je vis quand même à Montpellier, d'être pas loin des Alpes, pas loin des Pyrénées également, mais on va plus vers les Alpes parce que c'est plus rapide. L'autoroute est directe vers, par exemple, l'Alpe d'Huez ou d'autres, hein. Et donc oui, je suis dans le ski, il y a autre chose que le sport, il y a aussi la montagne, il y a ce contact avec la nature qui est, alors évidemment un week-end de premier de l'an dans une station de ski, vous allez me dire le contact à la nature, c'est pas tout à fait ça, mais en fait vous pouvez skier en dehors du week-end du premier de l'an.
On vous envahit skier, parfois, ouais, hein,
on
les
peut
Parisiens.
Skier, ouais. On peut skier dans des moments où il n'y a pas grand monde, on peut faire même du hors-piste, toujours avec mon nom, évidemment, avec moniteur pour faire des choses qui soient faisables. Et vous avez un contact à la nature qui est extraordinaire. Je suis quand même quelqu'un... Moi, j'ai grandi dans la nature. Je suis un enfant de la ruralité. Et même si j'adore Paris, j'aime bien les grandes villes. Je ne pourrais, je pense, difficilement me passer des grandes villes. Je pense que se ressourcer, ouais, se ressourcer près de la nature, c'est quelque chose qui, c'est facile, hein, tout le monde le dit, mais enfin moi j'ai grandi là-dedans, donc si vous voulez, je reconnais quand même un être d'un boulot et
c'est le sel, ouais. On perçoit une conception de la vie, voilà, multidimensionnelle, et c'est intéressant. Il y en a, et si ça leur plaît, et ils ne font que travailler. Et vous, il y a le sport, il y a l'art, il y a les vacances. Dans votre famille, il y avait cette comment ils regardent votre succès fulgurant comme entrepreneur, et ils vous ont poussé à vous épanouir dans tous ces domaines?
Moi, je suis un enfant d'enseignant, donc forcément, quand on est enfant d'enseignant, on doit réussir à l'école. Ça, c'est le premier truc. Donc, vous savez, je veux dire, je suis pas du tout... Je suis un littéraire contrarié, puisque j'avais pas eu le choix. Enfin, de mon temps, c'était le bac C. Donc, j'ai toujours entendu mes parents me dire, il faut que tu aies le bac C avec mention. Voilà, j'ai pas eu le choix. Donc, je suis passé par la filière un peu mathématique, parce que c'était une obligation. Mais l'avantage d'être dans un environnement très ouvert, mon père était prof de lettres, et il m'a ouvert à, on parlait d'art tout à l'heure, au moins la littérature, parce que c'est sa spécialité. Ça vous permet de vous éveiller. Il faut être ouvert, il faut être curieux. Enfin, je veux dire, le succès, je sais pas quel succès on peut, il y a pas vraiment de succès, mais je pense que il faut éveiller notre curiosité en permanence. C'est la curiosité qui fait l'homme. Donc il faut absolument s'ouvrir à toutes les formes, puis voir toujours un peu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce qu'on a un peu tendance en France à le voir toujours à moitié plein. Vive le positif, il faut être positif aussi. Un peu,
ça fait du bien d'entendre. Ouais. Et ça me fait plaisir, parce que c'est exactement ce que m'a dit l'un de vos meilleurs amis. Ah. J'ai eu la chance de parler à Christophe Quartero. Il m'a dit que déjà, tout jeune, vous aviez l'esprit, oui, pour vous amuser, mais pour regarder ailleurs, hors des frontières. On écoute Christophe Quartero. Christophe Quartero, bonjour, vous êtes avocat et vous connaissez Hugues Galambin depuis vos études. Comment ça s'est passé, votre rapprochement, votre amitié?
Eh oui, effectivement, je vous confirme, depuis plus de 30 ans, nous sommes amis. Nous nous sommes rencontrés à l'IAE à Bordeaux. Nous faisions une formation de commerce international et donc nous étions tous les deux sur les mêmes bancs, la même université.
Est-ce que déjà, ces qualités de manager, de leader, ont pu transparaître à ce moment-là?
Ça, je vous confirme que c'est quelqu'un de charismatique, parce que dès la période étudiante, effectivement, nous étions une promo et nous avions décidé de créer une association pour des étudiants de ce diplôme. Et tout naturellement, sans qu'il se propose, tout le monde a proposé qu'il devienne notre premier président, et ce qu'il a assumé et géré de main de maître.
Quel regard vous portez sur son parcours? Son groupe ne fait que grossir, quel développement, hein.
Alors effectivement, moi, on s'est connus, on était encore que deux étudiants. Je l'ai vu effectivement gravir les échelons, être commercial, après rentrer dans un grand groupe, après se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, à mon sens, a des grosses qualités de manager. Bon, outre le charisme, il est déterminé, il a une vision. Et c'est quelqu'un qui effectivement voit juste souvent, donc il a une vraie vision entrepreneuriale, et j'avoue que moi je suis toujours friand de ses conseils.
Oui, qu'est-ce qui fait que ces conseils, on se pesant d'or quand on vous écoute, pourquoi?
Alors, je vous donne une petite caractéristique. Effectivement, un jour, on s'est retrouvé en métropole à un congrès d'avocats, et il était présent, puisque au départ son cœur de métier c'était la legal tech, donc il développait des logiciels pour avocats notamment. Et donc je lui demande un conseil d'entrepreneur, et il m'explique qu'il va m'en donner trois, et il me dit embauche, embauche, embauche. Et c'est vrai que ça, c'est une des caractéristiques de Hugues, c'est de mettre l'humain au centre du business, car c'est la valeur essentielle.
Alors, vous ne devez pas vous voir souvent, là. Vous êtes en Guadeloupe, vous arrivez à cultiver cette amitié?
Alors, je confirme, effectivement, c'est une amitié qui dure depuis plus de 30 ans. Alors, lorsqu'il ne vient pas me voir en Guadeloupe, c'est moi qui me déplace, et en métropole, notamment vers Montpellier, ou alors on se retrouve à des occasions particulières. Et par exemple, mardi prochain, on est censé se voir, puisque on doit se retrouver pour aller voir le PSG jouer, puisqu'il est fanat de sport, et moi, je suis avocat en droit du sport, donc c'est vrai qu'on a des points communs aussi à ce niveau-là.
Il vous écoute, là, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Ouais, que j'ai hâte de passer une bonne soirée avec mon pote Hugues, voilà, mais il le sait déjà.
Ça fait plaisir. Alors, vous aimez le PSG, peut-être ça nous fait plaisir. Et l'équipe de Montpellier, vous avez plusieurs amours.
Non, mais j'aime le sport, donc vous pouvez m'amener à peu près partout, voir un bon match de foot. Je prendrais beaucoup de plaisir, mais pas que de foot. J'aime le foot, évidemment, parce que j'ai toujours suivi le foot. Quand on aime le sport, c'est difficile de passer à côté du foot. Mais j'aime PSG, j'aime le beau foot, j'aime pas particulièrement PSG, je suis pas un grand supporter du PSG, mais je prends du plaisir à avoir des grands joueurs sur un terrain, parce que c'est vrai que le foot qui est pratiqué par les joueurs qui sont dans la team du PSG.
Ouais, Mbappé se pose des questions en ce moment.
Hein. Oui, ben ça après.
Je sais pas qui vous suivez encore.
Mais je suis Montpellier également. Je suis aussi beaucoup le rugby. On est partenaire du Montpellier Hérault chez Septéo, donc je suis beaucoup le rugby. J'aime beaucoup partager avec Philippe Saint-André, qui est le manager de Montpellier, avec qui j'ai des rapports très très amicaux. On est partenaire du hand aussi. On est actionnaire du hand à Montpellier. Vous savez, c'est une institution, le hand à Montpellier. C'est le sport collectif qui a gagné le plus en France, dont deux titres européens, ce que le PSG, avec un budget deux fois et demi supérieur, n'a toujours pas réalisé. Mais j'aime tous les sports, vous voyez, je vous dirais. Et je pense que c'est une valeur très importante, le sport, dans l'entrepreneuriat. Parce que on ne peut pas être bien dans sa tête si on n'est pas bien dans son corps. Ça, c'est une vérité un petit peu de... Je vous ai dit que j'avais fait du judo, et le judo est très... de ce point de vue, c'est à la fois de l'éducation, le judo. C'est à la fois, il faut être très fort dans sa tête, parce que la défaite en judo est un peu plus dure qu'ailleurs, parce qu'elle vous touche à la fois psychologiquement, elle vous touche dans votre corps. Donc il faut être un peu préparé, donc il faut avoir une psychologie prête à perdre, parce que gagner c'est facile. Hein. Et puis il faut être physiquement extrêmement affûté, c'est un sport extrêmement difficile sur le plan physique, parce que c'est un sport qui vous met en tension en permanence, donc il faut une condition physique exceptionnelle, et puis une musculature exceptionnelle, puisqu'en fait vous êtes en permanence en tension. D'ailleurs, regardez, les judokas font partie, avec peut-être les gymnases, mais les gymnases ne sont pas en tension permanente. Peut-être les boxeurs ont la tension musculaire dans la boxe est pas permanente.
Il y a quelques bleus qui sont passés par là.
C'est pas tellement des bleus, il n'y a pas tellement de bleus parce qu'il y a assez peu de coups en judo. Hein. Mais ce que je raccroche, pardonnez-moi, j'ai fait un peu une diversion. Mais ce que je veux dire, la tête, le corps, les tripes, le cœur, tout ça est relié. Et vous ne pouvez pas bien manager si vous n'êtes pas en grande forme physique. Si vous voulez être vrai avec vos équipes, il vous faut parler avec les tripes et le cœur, et vous devez être à l'aise avec votre corps. Et je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que c'est très important. Les valeurs du sport sont très importantes. Et je pousserai toujours mes collaborateurs qui le peuvent à faire un peu de sport.
C'est tendance, hein, d'ailleurs. On parle beaucoup de qualité de vie au travail. Ça fait partie peut-être aussi demain avec l'alimentation, effectivement, d'avoir une bonne hygiène aussi physique. Du coup, quelle est votre routine sportive, Hugues Alambrin ?
Bon, mes outils sportifs.
Ouais, qu'est-ce que vous faites en fait ? Vous courez
Plus grand chose, j'essaie de courir
parce que
un petit
judo,
peu.
Le judo, là, j'en fais plus.
Même si on peut pratiquer le judo à tout âge, hein, mais c'est difficile d'avoir la forme suffisante pour être sur un tatami aujourd'hui. Mais j'essaie de courir, je fais du ski, je fais un peu de salle. Il m'arrive de faire un peu de salle. Et puis déjà, si j'arrive à faire ça dans la semaine, c'est pas si mal.
Ouais. Le ski aussi, il faut être en forme.
Le ski, il faut être en forme. Ouais.
Bon, j'espère que vous n'allez pas me faire un Shime Waza, prise de judo bien connue. Mais alors, vous êtes quelle
ceinture ? C'est pas une prise, non, c'est pas une
prise. Je vois ça
non,
sur Internet, hein, je me renseigne au fur et à
mesure. Non, ça n'existe pas, là,
tu as frôlé les...
Non, là,
j'ai
pour
pas
le
l'accent,
coup...
c'est ça, soyez pas dur, j'ai pas le bon accent.
Osotogari.
Osotogari, Ponsonagi si vous voulez, Onkezagatame, ce que vous
non,
voulez, mais...
Non, j'ai mon japonais, mais moi j'aimerais bien savoir, quelle est votre ceinture alors ?
Noire, bien sûr, je suis judoka, si...
Donc vous êtes toujours
quand on dit qu'on est judoka, c'est ceinture noire.
Oui. Il faut après, être ceinture noire pour être vraiment judoka. Vous pouvez être, si vous n'êtes pas ceinture noire, vous n'êtes pas vraiment judoka. Pardon à tous ceux qui sont ceinture marron.
Vous êtes déçus là.
Je pousse tous ceux qui sont ceinture marron à passer leur ceinture noire, évidemment.
Bon, ben, en tout cas, moi, je suis toujours d'accord avec quelqu'un qui est ceinture noire de judo. Et en plus, ben, je me pose la question, hein, Fabrice, est-ce que Septéo va nous racheter ? C'est quand même la question qu'on se pose quand on vous voit.
Il n'y a pas de média pour l'instant, c'est vrai. Il n'y a pas la brique média.
Non, il n'y a pas de brique média.
Bah, en tout cas, très intéressant parce qu'on sent un homme jeune qui fait plein de choses et pour le moment qui réussit. Donc, quels sont vos prochains objectifs ? D'un côté, ça a l'air d'un long fleuve tranquille quand on vous entend, tout va bien.
C'est vrai, il y a une impression de facilité.
Il y a une impression de facilité, alors que c'est des acquisitions, on sait que c'est des négociations difficiles, garder les gens, etc. Il y a une carapace, Lou, expliquez-nous quel est le secret de fabrique.
Non, il y a le secret de fabrique, c'est que si on force, ça c'est la souplesse du judoka. Pardon, excusez-moi. Non, mais on peut pas forcer. On peut pas forcer, on peut d'autant moins forcer que aujourd'hui on est dans un environnement de travail où on n'accepte pas le silo et il n'y a pas d'ordre qui parte d'en haut et qui descende. Ça n'existe plus, ça. Donc c'est de la coopération. Donc en fait, tout doit se faire en douceur, et où ça se fait, ça doit se faire, et ça se fait en douceur, où ça se fait pas, et à ce moment-là, il faut vite passer à autre chose, voilà, donc c'est, je pense que...
Une question peut-être pour terminer, et pour ouvrir le sujet, qu'est-ce qui vous anime encore ? Est-ce que c'est... Parce que c'est vrai que maintenant, bon, le track record, comme on dit, hein, l'expérience des acquisitions, elle est faite, le groupe est lancé, il est sur orbite, il peut peut-être tourner sans vous, on vous le souhaite pas, mais quelle va être la prochaine étape pour vous, personnellement ?
Alors oui, qu'il puisse tourner sans moi, c'est la valeur d'un grand patron ou d'un chef d'entreprise. C'est de se dire qu'il faut toujours faire en sorte que l'entreprise puisse tourner sans lui. Puisqu'en fait, là, il faut structurer suffisamment l'entreprise de façon à ce que...
D'accord, mais vous ne pensez pas à la retraite, là.
Non, je ne dis pas ça parce que j'ai envie de partir à la retraite.
Donc là, vous avez envie de continuer encore.
J'ai envie de continuer, je pense qu'on est au début. Là, on a transformé le groupe pour en faire un groupe, un grand groupe français. Je pense que Septéo était au début, même si Septéo est aujourd'hui un groupe important. Je pense que dans quelques années, quand on regardera ce qu'est Septéo dans l'environnement économique français, ben on aura été, je pense qu'on sera fiers d'avoir fait cette magnifique entreprise française. Donc, comme je suis pour l'instant... en forme, j'ai envie encore de le
vous
porter
amusez
un peu
bien.
Plus haut.
Vous amusez bien.
Je m'amuse bien, voilà. Et j'ai envie de vous dire, effectivement, le jour où je m'amuserai plus, sans doute à ce moment-là, j'irai faire de la marche en Cévennes.
Et c'est formidable. Vous m'expliquerez, hein, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a 8 pôles, mais ça s'appelle Septéo. Mais alors, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a cette marque forte, mais vous préservez l'indépendance de ces sociétés, parce que, si j'ai bien compris, pour le moment, Modelo, Netti, elles gardent leur marque. C'est un petit intéressant, cette approche.
Les marques, ce sont des actifs très forts dans le groupe, et on ne touche pas aux marques. Après, on touche aux entités, au sens, si on a souhaité se réunir, c'est pour faire des choses ensemble. Donc il faut que, bon, vous parliez de Modelo Netti, si Modelo Netti ne travaille pas ensemble, si dans un CRM pour agent immobilier, on n'arrive pas à intégrer des actes avec Modelo, ben, il fallait rester chacun de son côté. Donc on doit faire des choses ensemble. Mais la marque Netti, la marque Modelo doivent rester évidemment constitutifs de Septéo.
Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de votre groupe qui va continuer, on l'imagine et on l'anticipe, on le sent, à grossir.
Merci d'avoir répondu à mon invitation, Galambrin. C'était un plaisir de découvrir votre groupe et vous-même.
Voilà, merci. Et on va terminer, je vous avais dit, c'est très éclectique, après Christophe et Daft Punk, par quelques notes de Mozart, quelque chose aussi que vous appréciez.
Ça, c'est le génie absolu.
Merci.
Au revoir à tous, merci.
Et à très bientôt, merci, on se retrouve très prochainement pour un nouveau Mac de Libo. Thank you.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.